Merci Alain, merci Johnson, merci tous les organisateurs de ce colloque de rentrée. Je suis particulièrement heureux d'être de retour parmi vous et je suis toujours ému par cet auditoire que j'ai connu pendant 30 ans. Donc, et ça me fait un réel plaisir de participer à cette discussion. Je ne vous parlerai pas de science, je ne vous parlerai pas de philosophie, mais je vous parlerai d'une exposition qui a eu lieu il y a quelques années, en 2005, à Nancy, et que j'ai eu le bonheur d'organiser. Donc, ce sera un exposé un peu distrayant, où vous verrez pas mal d'images, mais où j'ai aussi essayé d'introduire une mini-réflexion philosophique, je ne sais pas si j'ose appeler ça philosophique, mais au moins un cheminement qui va de Newton à l'abbé Grégoire et aux droits de l'homme. Alors ce cheminement peut vous paraître un petit peu surprenant, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi, et au cours de cette présentation, vous trouverez peut-être une justification ou vous rejeterez purement et simplement ma manière de voir, c'est selon votre opinion à vous. D'abord, la motivation, s'il s'agissait de célébrer à Nancy le temps des Lumières, c'est-à-dire en fait l'occasion de présenter et de célébrer la construction de la place Stanislas, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui avait été commandée par Stanislas, qui était le roi de Pologne en exil et qui était bien connu comme un représentant du siècle des Lumières. Et qu'est-ce que ça veut dire, le temps des Lumières? C'est aussi connu comme le temps du rationalisme, depuis Descartes, avec le discours de la méthode, en 1637, et surtout, le point important, la publication d'Isaac Newton, les Principia Mathematica en 1687, et tout un mouvement philosophique qui a suivi et qui se termine avec les guerres napoléoniennes en 1804. Et quelle était l'idée générale? C'est que l'application du principe et des méthodes des sciences et de la raison à tous les phénomènes naturels et même à ceux de la société conduit à la liberté, à la démocratie et à la fraternité comme valeur première de la société. Et qu'à la suite de ce mouvement des Lumières, proposé la déclaration d'indépendance aux États-Unis en 1776, la Constitution des États-Unis en 1787 et la Déclaration des droits de l'homme en 1789 et deux grands noms, bien entendu, dans ces dernières étapes, ont été Benjamin Franklin, sur lequel je ne reviendrai pas, et l'abbé Grégoire en France. Le plan de cette exposition est le suivant. D'abord, une présentation de Newton. Le transfert des idées de Newton de l'Angleterre vers le continent, et en particulier la France, avec Gabriel, Émilie du Châtelet et Voltaire. Ensuite, une présentation de l'œil, le cerveau et la méthode expérimentale avec encore Newton sur la lumière. La lettre sur les aveugles par Diderot a joué évidemment un rôle extrêmement critique sur le jugement perceptif, nous y reviendrons. Et ensuite une transition, que vous accepterez ou pas, entre Diderot et Bougainville, le voyage de Bougainville et son supplément, toujours par Diderot, qui élabore, je dirais, une critique rationaliste du jugement moral. Et enfin, l'abbé Grégoire et la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi l'abbé Grégoire? Parce qu'il était né à Nancy et qu'il a été aussi un révolutionnaire très actif depuis 1789 jusqu'à 1794, et il est mort en 1830, donc bien plus tard. L'autre idée générale de ce parcours, c'est comment l'art a pu contribuer à la diffusion de ses idées et comment certaines des œuvres qui ont été présentées à l'exposition de Nancy ont pu créer ce lien, ce cheminement depuis la science jusqu'à l'éthique, si j'ose dire. Première section, donc Newton, Gabriel, Émilie du Châtelet, Voltaire. et pour commencer, simplement rappeler que Newton a développé le calcul infinitésimal en 1666. En 1687, donc c'est la fin du XVIIe siècle, il écrit la Philosophiae Naturalis et Principia Mathematica, qui est le travail fondateur de la mécanique classique avec la loi de la gravitation universelle. Et la description en termes mathématiques et rigoureux de mouvements des corps à la fois dans l'univers et sur Terre, et l'existence d'une loi unique qui permette d'établir cette description rigoureuse, donc je dirais une mathématisation de l'observation scientifique qui n'est pas neuve, mais qui est, après Galilée bien sûr, mais qui s'exprime dans toute sa splendeur, si j'ose dire, avec Newton. Donc il y avait évidemment une présentation des Principia et en même temps la diffusion de ces idées des Principia sur le continent et en particulier en France. Et c'est là où interviennent, je dirais, trois personnalités importantes. D'abord Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui rendit visite à Newton en 1728, mais qui aussi fit un voyage en Laponie et a confirmé certaines des théories de Newton, et qui est devenu ensuite professeur de géométrie d'Émilie du Châtelet. Et là, nous voyons intervenir une femme, ce n'est pas la seule. Elles ont joué un rôle important dans la science des Lumières, puisque c'est elle qui a d'abord aidé Voltaire à traduire les éléments de philosophie de Newton, les Principia Philosophica, d'abord en instruisant Voltaire de son contenu, en rédigeant une bonne partie, ce qui n'a pas empêché Voltaire d'ailleurs de signer seul ce livre en 1738. Mais enfin, Gabriel du Châtelet a pris sa revanche, puisqu'elle a ensuite repris ça d'une manière peut-être plus sérieuse et plus scientifique, en corrigeant des erreurs de Newton, d'ailleurs. On peut le voir dans certains manuscrits de la Bibliothèque nationale, et proposer ces institutions de physique en 1740. Donc il y a eu en France une diffusion très importante des idées de Newton, non pas celles qui sont celles du Newton alchimiste ou théologien, mais celles du Newton philosophe, et qui se sont développées, chose très intéressante, d'une manière très singulière sur le continent, à la différence de l'Angleterre elle-même. Et voici un portrait de la marquise du Châtelet, qui est peint par une artiste peintre, Marianne Loire, qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, vous pouvez la voir, et donc qui a été à la fois une scientifique très active et en même temps qui a réussi à transmettre le contenu scientifique de la pensée de Newton à l'élite éclairée des Lumières en France. Les scientifiques français de l'époque, enfin, philosophes et personnes intéressées, évidemment, ont commencé à lire Émilie du Châtelet et s'intéressent aux questions d'astronomie. Et encore une fois, une femme scientifique de haut niveau qui s'appelle Hortense Lepaute a, avec Jérôme Lalande, un astronome, a essayé de prédire un phénomène astronomique que chacun pouvait voir. Donc il y a, je dirais, à ce niveau, un aspect public de la science, une médiatisation de la science, et avec la prédiction du retour de la comète de Harvey dans un délai de 518 jours, et le 13 mars 1759, la prédiction se réalise. Donc on reconnaît l'importance de la réflexion théorique de Newton sur le plan concret, pratique, et cela, évidemment, contribue au succès de ses idées en France et sur le continent en général. Et d'où l'inspiration de certains artistes, comme l'Italien Donato Creti, avec ce tableau sur Jupiter de 1711, et un autre sur Vénus, et quelques autres qui étaient présentés à l'exposition de Nancy, qui montre à quel point, enfin, la science avait pénétré l'art et a pénétré l'histoire de l'art. Newton, évidemment, ne s'est pas contenté d'avoir une théorie générale sur le mouvement de l'univers, mais aussi a effectué des expériences sur la réfraction de la lumière, qui ont été évoquées ce matin par Serge. Et à cet égard, ces expériences qui ont été publiées dans l'Optique en 1704, donc c'est le tout début du XVIIIe siècle, ont eu un rôle extrêmement important, en plus de ce que je viens de dire sur ces théories générales. Et à l'exposition de Nancy, nous avons eu le privilège d'avoir un manuscrit de Newton, un carnet de notes, sur la couleur, où justement il étudie cette expérience fondamentale du prisme et de la décomposition de la lumière, qui est évidemment extrêmement importante sur la nature de la lumière, comme étant hétérogène, et que la lumière blanche est en fait résulte de la juxtaposition de radiations de couleurs différentes, qui d'ailleurs persistent lorsqu'on les isole et qu'on les fait passer sur un autre prisme en tant que tels, qui sont intrinsèques. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à partir de cette décomposition de la lumière en couleurs, en radiations de couleurs différentes, on peut reconstituer la lumière blanche avec un prisme, et c'est cette expérience qui a vraiment conduit à la démonstration de cette composition spectrale de la lumière blanche. À cet égard, on peut considérer que, et sur le plan philosophique, c'est un point très important. Non seulement il y a la relation entre mathématiques et observation, mais il y a aussi, chez Newton, la relation de l'expérience démonstrative nécessaire et suffisante. Et à cet égard, ce travail sur la lumière a eu un impact très important et a introduit une philosophie fondamentale par laquelle la première source de connaissance est l'expérience et le raisonnement. Donc, à cet égard, on se trouve, comme vous allez le voir, dans le rationalisme des Lumières, et qui a eu une telle importance dans notre société jusqu'à nos jours, comme vous allez le voir. Petite incidence, pour donner raison à Serge, il y a toujours une application qui vient, et de la diffraction de la lumière et de la décomposition de la lumière vient, évidemment, il y a des artefacts qui se produisent, des aberrations chromatiques. Et pour éviter celles liées donc aux lentilles, Newton construit un télescope avec un miroir comme objectif. C'est une idée d'une extrême simplicité, encore fallait-il y penser. Donc c'est le télescope newtonien qui est d'ailleurs toujours utilisé de nos jours. Newton meurt et on comprend, même si à la fin de sa vie il n'a pas poursuivi une recherche scientifique de même qualité, le caractère important de sa contribution. Et il y a une sorte d'apothéose de Newton à travers le monde et en particulier en France. Et je vous illustre parmi d'autres tableaux qui étaient présentés à Nancy, c'est très bel dessin d'Étienne-Louis Boulet, cet architecte bien connu, qui a un projet de cénotaphe pour Newton. Et ici, en élévation perspective, et là, avec effet de jour intérieur, pour justement montrer à quel point Newton avait vu le monde d'une manière exceptionnelle et unique et mémorable. Donc, une apothéose qui consolide en quelque sorte la diffusion des idées philosophiques de Newton. Et ce que je voudrais vous illustrer, c'est que Newton n'a pas simplement eu une influence en physique, ni même, je dirais, en philosophie via Voltaire et Émile du Châtelet, mais aussi parmi les scientifiques de l'époque. Et vous dire quelques mots de ce que l'on savait sur l'œil à l'époque, enfin, c'est juste quelques illustrations, parce que nous avons eu un magnifique exposé de José Sahel, donc je ne vais pas reprendre la science, mais juste l'illustration de ces travaux de dissection très fines qui ont été faits à l'époque par en particulier Jacques Fabien Gauthier d'Agoty, et aussi ces reproductions en cire des organes, entre autres du cerveau, de l'œil, de son innervation, comme vous pouvez le voir ici, et la vascularisation du cerveau, distinction de substance grise-substance, qui est assez ancienne, bien antérieure, mais enfin qui est reprise avec beaucoup de détails et de précisions, et qui conduit aussi à des premières interprétations physiologiques sur la vision, et au moins qui souligne où se trouvent les problèmes importants de la vision, comme la vision binoculaire, le problème au fond d'une image commune avec deux yeux, la stéréopsie, vision des couleurs, que sais-je. Et pour illustrer justement cette application de la position newtonienne sur la composition de la lumière blanche, l'invention à l'époque par Jean-Christophe Leblond de la trichromie, et en ce sens, comment arriver à reproduire des couleurs naturelles par impression successive d'impression avec des couleurs élémentaires, bleu, jaune, rouge, vert, etc. Il y a une application très concrète de la théorie de Newton sur la couleur, même si Leblond lui-même n'acceptait pas les idées de Newton. Comme quoi, quelquefois, de bonnes applications peuvent se faire, même ayant une théorie fausse. Enfin, en l'occurrence, il avait la bonne théorie, mais il ne la reconnaissait pas. Ça arrive de temps en temps. Le contact avec le monde scientifique s'est donc manifesté déjà sur le plan de cette problématique de la vision, sans qu'elle aille très loin, parce que nous ne sommes pas au 19e ou 20e siècle. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que un de nos plus grands scientifiques, Buffon, en 1740, a commencé sa carrière par la traduction de la méthode des fluxions et des suites infinies de Newton. Il a été un traducteur de Newton d'anglais en français. Et vous voyez que dans Buffon, au tome 3 de l'Histoire naturelle générale et particulière, eh bien, il y a référence aux expériences de Newton sur la gravité. Donc vous voyez que même au sein de la biologie, il y a référence aux idées newtoniennes et aussi, évidemment, à l'expérimentation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui reste présente dans l'esprit de tous les scientifiques de l'époque. Voilà un très joli microscope qui se trouve au ministère des Métiers aujourd'hui. Et son utilisation a permis, et ça c'est décrit dans l'histoire naturelle de Buffon, progresser dans la connaissance du vivant, entre autres les premières observations sur les spermatozoïdes que vous voyez ici, et aussi, alors ça c'est par Leeuwenhoek, 1719, les essences de fibres nerveuses et les premières observations avec le microscope optique. Donc vous voyez que cette démarche a permis de progresser dans les aspects microscopiques de l'organisation du vivant et aussi sur ses fonctions. Et ça, c'est une expérience majeure qui est très inspirée, selon moi, de la réflexion newtonienne. C'est les expériences sur l'électricité animale qui ont été faites par Galvani et qui ont montré pour la première fois que non seulement les muscles, ici de la grenouille, sont stimulés par l'électricité produite par cette machine électrique, mais aussi produisent de l'électricité. Et ça, c'est évidemment un point majeur, puisque, comme vous le savez, la signalisation dans le système nerveux est chimique, mais aussi et surtout électrique. Alors, pour l'aspect chimique, malheureusement, on ne connaissait pas les neurotransmetteurs à l'époque, loin de là, mais on connaissait certains stimulants de notre système nerveux central. Et le plus important, évidemment, c'était le café. Et cette réunion des principaux philosophes, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Condorcet, etc., se fait autour d'une tasse de café, qui est un stimulant cognitif cérébral bien connu et dont les récepteurs ont été identifiés et sont maintenant connus. Au niveau atomique, donc, dans une certaine mesure, la chimie du cerveau a contribué au débat éclairé. Voilà donc un certain aspect de la diffusion des idées de Newton. Plus intéressant, évidemment, est ce que d'autres philosophes ont pu reprendre à la fois des idées scientifiques et de ce que disaient certains biologistes ou de ce que disaient certains de leurs collègues, et dont Voltaire, Émile Châtelet, Denis Diderot, et pour moi, un des grands noms et un des très grands penseurs de la philosophie des Lumières. Et il écrit en 1749 la lettre sur les aveugles, sur la relation entre perception et connaissance, qui était évidemment un des thèmes majeurs de l'époque, depuis John Locke, et aussi Condillac, la relation entre perception et connaissance est vraiment un problème central. Évidemment, il y avait l'aspect empiriste, comme quoi la perception provient directement, la connaissance provient directement de la relation avec le monde extérieur via les organes des sens, et puis des innéistes. Et cartésiens sur lesquels tout était inné et produit par notre cerveau, spontanément, en l'absence de simulation du monde extérieur ou évoqué par la simulation avec le monde extérieur. Alors, Molino, ça a été mentionné par José tout à l'heure, avait posé un problème que John Locke a repris. Si un aveugle né peut percevoir la différence de forme entre une sphère et un cube, peut-il semblablement distinguer ces objets par la vue sans toucher ? Si on lui donne la capacité de voir. Alors, c'est un problème qui commence à être résolu, comme ça a été mentionné, qui reste toujours très débattu. Et pour Locke, c'est évidemment non, parce que l'apprentissage par la vision est nécessaire. Et Diderot est beaucoup plus prudent et reprend encore une fois, pardonnez-moi, la méthode newtonienne, faisons une expérience et regardons qu'est-ce qui se passe. Et pour ça, il fallait opérer un aveugle-né de la cataracte. Je vous dis tout de suite que la réponse n'est pas simple, puisqu'il y a à la fois évidemment des composantes qui sont de type apprentissage empirique, c'est-à-dire que l'aveugle qui va recourir la vision ne va pas le faire instantanément, il va y avoir une période d'apprentissage, mais il existe des dispositions innées, comme cela a été montré tout à l'heure, qui permettent cette relation entre environnement et système nerveux central. Ce que Diderot note dans dans son texte sur la lettre sur les aveugles, c'est que chez l'aveugle, la perception tactile est très développée. Et ça, c'est vraiment il y a une sorte de compensation qui se produit sur le plan sensoriel. C'est une observation très importante que fait Diderot et qui a évidemment des conséquences, nous allons le voir dans une minute. Juste pour illustrer qu'à l'époque, on effectuait l'opération de la cataracte, d'une manière assez semblable d'ailleurs à aujourd'hui, M. Sahel me corrigera. Mais ce qui est important, c'est que Diderot utilise son observation de l'augmentation des capacités perceptives tactiles chez l'aveugle pour trouver une application immédiate dans l'éducation et l'éducation des aveugles. Et c'est à la suite de la lettre sur les aveugles, du contact entre Diderot et les personnes concernées, comme vous savez, c'était à cette époque-là, on était très concernés par les sourds et muets, par les aveugles, etc. Et l'aspect éducation, malheureusement, cette volonté d'éducation est un petit peu perdue de nos jours, pas chez nous, bien sûr, mais à l'époque, ça a été quand même un aspect très, très important, essayer de faire en sorte que les aveugles puissent lire, et comment lire ? Ben, lire avec leurs doigts. Et c'est Valentin Huy qui a inventé la méthode de lecture tactile analogique, vous pouvez d'ailleurs voir au musée Valentin Huy, ces abécédaires. Et puis, méthode a été abandonnée et remplacée par celle de Louis Braille, qui est une méthode digitale avec six points en relief que vous connaissez tous. Cette réflexion philosophique, en quelque sorte de Diderot, philosophe, a eu des implications pratiques très concrètes Et je dois dire que c'est à l'origine de toutes les méthodes éducatives qui ont été utilisées par la suite. Diderot ne s'arrête pas là et se met à rêver. Ça arrive quelquefois aux philosophes, même les meilleurs, son cas. Et là, il recrée une scène imaginaire de la mort du mathématicien anglais aveugle, Nicholas Anderson, et lui prête évidemment tout un imaginaire qui apparaît dans la tête de ce mathématicien aveugle. Et il se met en quelque sorte à délirer, à proposer que, au fond, l'évolution des êtres vivants se produit par des variations, qu'il y a des monstres qui apparaissent et que certains sont sélectionnés. Et c'est déjà quelque sorte une prémisse du darwinisme. Évidemment, ce n'est pas exprimé avec la clarté de Darwin, mais il viendra quand même presque un siècle après. Et il y a déjà cette idée d'absence de dessin intentionnel et de variation, sélection. Il évoque même la notion de matière pensante. Il va de soi que l'Église catholique n'a pas tellement aimé ce genre de manifeste et que les choses sont allées très loin puisqu'il était emprisonné Diderot à cause de la lettre sur les aveugles à Vincennes pour plusieurs mois et qu'il y a eu une sorte de manifestation de ses collègues pour le sortir de Vincennes qui ne s'est pas fait sans difficulté. Donc pour moi, c'est quand même une chose très importante que d'avoir à ce niveau un élargissement de la science à la pensée philosophique et de la pensée philosophique sur elle-même avec ici un exemple extrêmement intéressant de réflexion scientifique elle-même, de la pensée philosophique vers la réflexion scientifique. Et je voudrais maintenant poursuivre avec un autre mouvement que je trouve très intéressant et qui est aussi auquel Diderot contribuera, et qui est non plus l'aspect philosophie vers la science, mais, ou vers la science, disons, dure, mais philosophie vers les sciences humaines, en quelque sorte. Et à cet égard, à cette époque, Bougainville est une personnalité intéressante et qui va nous intéresser, et puisque à 25 ans, lui aussi, comme Buffon, il est inspiré par les Principia de Newton et publie un traité de calcul intégral en français, très important, en deux volumes, que vous pouvez lire, et qui est majeur. Et de ce fait, en 1755, devient membre de la Royal Society, qui est, pour un Français, assez exceptionnel. C'était aussi un militaire. Bon, on ne peut pas avoir toutes les qualités, mais il est parti au Canada, il a été très courageux d'ailleurs, mais malheureusement il a été battu, et dans ce combat contre l'Angleterre, évidemment, il en a subi des difficultés, il ne pouvait plus embarquer dans un bateau militaire, mais les Anglais lui ont donné la possibilité de s'embarquer dans un bateau qui aurait simplement une fonction non militaire et d'information éventuellement scientifique. Et donc, il a effectué en 1766 un voyage autour du monde avec deux bateaux, la Boudeuse et l'Étoile, et un botaniste à bord, Philibert de Commerson. Et il va visiter, donc, faire ce tour du monde et entre autres s'arrêter à Tahiti en mars 1767, qu'il croit avoir découvert. En fait, il ne l'a pas découvert. Un Anglais l'avait découvert avant, mais peu importe, il appelle la nouvelle Cythère, et puis il rentre en 1769 en France, sans trop de soucis, et ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel pour un voyage à telle distance et aussi longue durée. Et voici une vue de la nouvelle Cythère avec donc les deux bateaux et la boudeuse et la flûte, etc., qui était évidemment très, très simplifié, mais qui est très émouvant, et qui se trouve à VNF. Alors, chemin faisant, évidemment, ils ont collecté Commerson, avec le soutien de Bougainville, des quantités d'espèces animales, entre autres des poissons qu'ils ont desséchés. Il y a ce qu'on appelle un herbier de Commerson, qui est herbier de poissons, qui sont des poissons séchés, qu'on peut trouver intacts au Muséum d'Histoire Naturelle, et aussi, bien entendu, un herbier classique. Et ici, vous avez non seulement le bougainvillier, qui a été découvert à cette époque-là, mais ici, l'hortensia, qui était, je crois, baptisée en l'honneur d'une charmante dame qui s'appelait Hortense. Donc, il y a eu cette exploration de la nature, mais aussi, évidemment, cette reconnaissance d'une civilisation différente et avec des conventions morales différentes. Et ce voyage autour du monde, publié en 1971, donne une vision d'une sorte de paradis terrestre où hommes et femmes vivent heureux, en toute innocence, loin de la corruption et de la civilisation occidentale. Enfin, c'est une vision très idéalisée cette vie qui aussi concernait pas mal la vie sexuelle des marins, mais enfin bon, qui était très bien vécue sur place. Donc cette vision des choses, évidemment, qui est illustrée un petit peu ici, voulait souligner l'aspect du bon sauvage et de l'état de nature de l'espèce humaine, et il va de soi que notre ami Diderot s'en est saisi. Il a donc lu Le Voyage autour du monde et a imaginé un dialogue imaginaire où il critique violemment, et là je dirais en termes rationnels, hein, il a appliqué la démarche critique et rationnelle, je dirais scientifique, des valeurs et de l'organisation de la société occidentale, et profiter pour condamner l'esclavage, la colonisation, la religion, la justice, l'intolérance, que sais-je encore. Donc, il y a ici une évolution qui passe, je dirais, de la philosophie aux sciences humaines, qui nous intéresse évidemment, et avec l'idée qu'il puisse exister une morale sociale naturelle, spontanément vertueuse, et qui va avec la poursuite du bonheur. Enfin, c'est une vision peut-être un peu simplifiée de ce que Diderot essaie de transmettre comme message, mais c'était l'idée générale. Alors, ici, ce très beau tableau de l'Amérique qui est par Wright of Derby, qu'on avait pu présenter à l'époque, qui est un tableau rare, qui circule très peu, où on voit justement une chef indienne qui est en train de méditer sous les arbres de son mari décédé, et qui est donc en quelque sorte une critique de la colonisation et qui touche évidemment le spectateur avec ses nouvelles idées donc des Lumières. Et je terminerai avec l'abbé Grégoire et la Déclaration des droits de l'homme. Alors, l'abbé Grégoire est un personnage extrêmement singulier, puisqu'il est prêtre, évêque constitutionnel, mais à la fois ardent républicain, révolutionnaire, et même un très proche ami de Robespierre, ce qui peut paraître surprenant. Mais enfin, je tiens à vous rassurer, il a survécu à sa participation au comité de salut public. Donc, ce que je souhaiterais de souligner chez Grégoire, qui donc est né en Lorraine et a fait ses études justement en partie à Nancy, et a fréquenté les cercles des Lumières au niveau de Nancy et de Stanislas, que très tôt il a proposé un essai sur ce qu'il a appelé, c'est ses termes, hein, la régénération physique, morale et politique des Juifs. Ce qui était le premier texte où il demandait l'égalité des droits, avant la Révolution, hein, je tiens à le souligner, en 88. Il, évidemment, est élu aux États généraux, participe à la Révolution, toutes les étapes de la Révolution française, et entre autres, contribue très directement à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, et fait voter en 91 les droits civiques et politiques aux Juifs ainsi qu'aux personnes de couleur avec abolition de l'esclavage en 1794. Malheureusement, Napoléon a oublié ça et a rétabli l'esclavage, bien malheureusement pour notre pays, parce que je pense qu'on était les premiers à avoir, je ne suis pas sûr, mais enfin, je pense, un des premiers en tout cas à avoir aboli l'esclavage. Il propose aussi en 94 un discours très important à la Convention, sur lequel il était très très critiqué, qui s'appelle « La liberté du culte », considérant que c'était à chacun, selon ses idées, ses pensées, sa manière de voir les choses sur le plan religieux et philosophique. Et sinon, c'est le principe de laïcité. Il propose aussi, et ça c'est un point qui peut vous surprendre, en particulier avec ce que l'on voit en ce moment, il propose à la Convention une motion contre le vandalisme, qui est la destruction des œuvres culturelles. Et il est, comme vous le savez, à l'époque, il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été détruites. Et en France, il n'y a pas simplement en Syrie, en Irak. Il fait cette proposition, il fait voter. Il propose une réorganisation des bibliothèques publiques. Il s'intéressait aussi à la botanique, c'est un homme vraiment universel. La création des jardins botaniques. Et puis, évidemment, l'amélioration de l'éducation, entre autres scientifique et technique. Voilà quand même un personnage parmi beaucoup d'autres choses qu'il a proposé, qui était à l'origine des fondements de notre société démocratique. Il entre au Panthéon récemment, mais il n'a jamais été reconnu par l'Église catholique. Bon, peut-être qu'il faut proposer au pape qu'il devienne un saint, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier. Mais juste pour dire qu'à cette exposition, il y avait une illustration avec le manuscrit original donc sur l'essai sur les Juifs. Il y avait toute une partie de l'exposition qui était sur des objets de l'époque qui étaient conservés. Et évidemment aussi des illustrations sur l'égalité donnée aux Noirs et cette très belle estampe du musée Carnavalet sur... les mortels sont égaux, comme vous pouvez le voir ici. Et enfin, je mentionnerai que l'abbé Grégoire était très concerné par l'éducation scientifique et c'est lui qui a créé en 1994 le Conservatoire national des arts et métiers avec le musée que vous connaissez, tous les objets qui s'y trouvent, mais aussi l'éducation en dehors des heures de travail qui permet à ceux qui ne sont pas d'un milieu qui leur permet de vivre indépendamment, d'accéder à la connaissance et de progresser. Donc, voilà Grégoire comme étant une icône d'un universalisme éthique laïque, avec évidemment cette défense de la Déclaration des droits de l'homme. Mais je voudrais juste terminer en soulignant un petit problème. C'est qu'en 1789, il a proposé non seulement une déclaration des droits de l'homme, mais il voulait aussi qu'on réfléchisse à une déclaration des devoirs. Alors, c'est une chose très curieuse et intéressante. C'est qu'à l'époque, elle était rejetée parce qu'il pensait que, je ne sais pas, l'Assemblée, qu'il y avait un aspect religieux, ou je ne sais quoi. Enfin bref, ce n'était pas du tout d'ailleurs dans les intentions de Grégoire. Et simplement, il voulait qu'on précise les choses. Je termine dans une seconde. Et je voudrais que ça nous donne l'occasion de réfléchir à cette idée, et en particulier à tout ce qui accompagne actuellement le développement incontrôlé des technologies. Et à cet égard, je pense que c'est un problème qui est soulevé par le développement de la connaissance scientifique en ce moment et technologique, qui est extrêmement sérieux. Je parle en particulier des relations entre les technologies hyper-performance et notre cerveau qui a ses limites. Donc c'est une question qui est soulevée et aussi évidemment, bien entendu, toute la destruction de l'environnement, etc. Et pour ceux qui ont lu Günther Anders, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à tout prix à éviter cette obsolescence de l'homme qui, selon lui, est là où nous allons. J'espère que nous allons ne pas aller dans cette direction. Et donc, toujours... chercher l'homme avec Diogène. Et évidemment, les neurosciences vont, je l'espère, jouer un rôle important dans la compréhension de notre cerveau, qui finalement est là pour décider du futur de l'humanité. Je vous remercie.